Radio Univers.
Logosphère. Zone autonome de parole et de pensée libre. Agora, où se mêlent expériences et réflexions sur ce monde que nous partageons. Une sorte d'université populaire sonore. C'est maintenant sur les ondes d'univers. Bernard Noël, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes ici à la Maison de la Poésie, à Rennes. Vous y êtes invité dans le cadre du Printemps des Poètes. Donc, nous sommes ici dans le jardin de la Maison de la Poésie, à la Villa Beauséjour. Vous allez donner des lectures durant cette manifestation. Vous avez une pensée poétique qui refuse les disciplines instituées et par là même ne se coupe pas de son implication politique. Vous avez écrit que le moyen le plus efficace pour domestiquer l'homme est d'occuper l'esprit des hommes. Aujourd'hui, les pouvoirs ont développé très loin cette emprise jusqu'à nous faire perdre le sens des mots. Pour cela, vous avez forgé ce terme de censure, la censure avec un S. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Oui, ça, c'est une histoire qui remonte assez loin. Parce qu'à une époque, donc après le procès du Château de Seine, mon éditeur de l'époque, qui était Jean-Jacques Pauvert, m'avait demandé au fond de reprendre mon témoignage devant les juges. Et donc, réfléchissant là-dessus, ça se passe en 1975. Si vous voulez, à l'époque, le monde avait l'air assez simple, si j'ose dire. Il y avait d'un côté les pays sans censure, la liberté d'expression, c'est-à-dire tout l'Occident, et l'autre côté les pays avec censure, c'est-à-dire tout le bloc soviétique. Et puis, réfléchissant à cette situation, je me suis dit, au fond, c'est pas si simple, parce qu'il y a chez nous, en Occident, une autre forme de censure. Je veux dire, on peut tout dire, mais est-ce que tout dire a un sens ? Ou est-ce que tout dire n'est pas une façon, justement, de masquer ou de dénaturer le dire ? Et c'est à ce moment-là, au fond, que j'ai pensé qu'il y avait une forme de censure qui était la privation de sens en Occident. Donc, pour désigner cette forme de censure, ça marchait très bien en français. Il suffisait de remplacer le C par un S et on avait censure avec un S initial qui, me semble-t-il, désignait bien cette privation de sens.
Et justement, cette privation de sens, c'est l'abus par les pouvoirs du langage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment tout ça s'opère ?
Mais l'abus de langage, c'est ça. Bizarrement, ça s'opère à l'intérieur du langage. Je veux dire que il faut dénoncer cet abus pour en avoir conscience. Parce que sinon, il fonctionne avec une espèce de naturel qui le rend imperceptible ou invisible. Alors, il est de plusieurs sortes, sans doute, mais peut-être que le plus simple dans cette privation de sens, c'est qu'au bout de 30 ans de télé, c'est à peu près le temps depuis lequel la télé est devenue un média populaire, il y a une perte du langage extrême, sur laquelle je crois tout le monde s'accorde, mais que personne ne mesure, pour la simple raison qu'on n'a pas d'instrument pour mesurer cette perte de langage. Et que on la constate, mais au fond sans la mesurer, oui. Et je pense que cette perte de langage. Ce qui est grave dans toute perte de langage, c'est que, au fond, la relation humaine n'a tout son sens que, comment dire, à travers la nuance. Si on ne dispose pas des mots qui nuancent à la fois votre pensée et vos sentiments, on en arrive au, si vous voulez, je dirais caricaturalement, à dire qu'une fille est super, par exemple. Bon, c'est un peu court. Je veux dire qu'il y a de plus en plus dans la langue courante des expressions comme ça qui remplacent toute nuance et qui, en fait, font perdre... En perdant la nuance, on perd aussi la richesse du sentiment, quoi.
Et la richesse du monde, d'une certaine manière.
On perd aussi la richesse du monde, c'est vrai.
La censure, est-ce que ce n'est pas cette réduction du monde, de notre regard et de notre imaginaire?
Oui, bien sûr, c'est la réduction de toutes nos capacités humaines, finalement, de toutes les capacités qui sont liées au langage. Et sans doute ne mesure-t-on pas à quel point le langage est notre... Je ne sais pas comment appeler ça, notre deuxième nature, peut-être, mais une deuxième nature qui est devenue essentielle à l'humain par rapport à la première. Enfin, la première étant le naturel, si je puis dire, le simple fait d'être homme ou femme. Il ne prend, me semble-t-il, tout son sens qu'à travers la capacité d'expression que nous avons. Et cette perte de capacité d'expression qui est, je vous dis encore une fois, qui est plus ou moins consciente. Enfin, je ne pense pas qu'elle soit, qu'elle soit populairement consciente. Mais que les gens qui maîtrisent, si vous voulez, le jour où j'ai entendu monsieur... comment il s'appelait, le patron de TF1.
Patrick Lelay,
oui. Expliquait que son rôle, il expliquait ça à des entrepreneurs, dont les entrepreneurs sont en réalité des chefs d'entreprise, et je pense, il ne pensait pas que ses propos seraient relayés. Mais le jour où il a expliqué que son rôle était de créer du cerveau disponible pour Coca-Cola, enfin, Coca-Cola étant symbolique de tous les produits publicitaires, de toutes les annonces publicitaires, c'était quand même sidérant. Si vous voulez que quelqu'un l'avoue, jusque-là, on pouvait soupçonner la chose, mais elle n'avait été avouée par aucun chef responsable des grands médias. TF1 étant le média le plus, la chaîne de télé la plus écoutée par les Français. Au moins 50% des Français forment leur pensée. Ça, c'est assez accablant. Et je crois au fond que, moi, c'est une des choses qui m'interroge peut-être le plus dans l'histoire, je me sens trop vieux pour faire cette histoire maintenant, c'est comment diable la majorité a toujours été servile à l'égard de la minorité. Et pourquoi? Et ça, c'est apparemment depuis les origines. Si vous voulez, à partir du moment où la société humaine se constitue, au fond, à partir du moment où elle bénéficie d'un surplus, enfin, de nourriture, essentiellement au départ de nourriture. Et dès qu'il y a surplus, ce surplus sert à entretenir les gens qui vont vous écraser, c'est-à-dire les prêtres et les rois. Et ça ne bénéficie pas à ceux qui produisent ce surplus. Ouais, bon. Ça, c'est quand même un mystère dans l'histoire. Pourquoi diable y a-t-il toujours cette servilité de la majorité à l'égard de d'une minorité que cette même majorité porte au pouvoir? Alors, je ne suis pas sûr que ça ait tellement changé, au fond.
Alors, en même temps, vous nous dites que cette emprise-là est aussi pour asservir, les gens se soumettent, justement, à ces pouvoirs. Mais cet imaginaire est aussi le lieu de la libération, aussi, qui peut s'affranchir, justement, de toutes ces formes qui asservissent.
Ce qui est étrange, c'est que... Enfin, ce qui est étrange... c'est que nous disposons des moyens de résister à cette occupation mentale, mais au sens quasi militaire, qu'effectuent les médias. Peut-être d'abord, il faudrait décrire le... Comment dirais-je ? Justement, cette occupation, si vous voulez que le... Enfin, jusque-là, c'était essentiellement la télévision qui joue ce rôle. Et la télévision a ce pouvoir depuis le début des années le milieu des années 60, sans doute. Si vous voulez, une chose qui m'a frappé, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est Leroy Gourhan, qui est un anthropologue. Et donc, pour moi, le grand livre de Leroy Gourhan, c'est « Le geste et la parole ». Et dans ce livre, à la fin, quelqu'un, enfin, où il répond en tout cas, quelqu'un lui pose le problème de la télévision. Mais ce livre a paru, il me semble, en 62. Donc en 62, la télévision a quand même une influence assez réduite. Si vous voulez, il y a une chose extraordinaire, c'est de penser qu'à cette époque-là, l'émission qui a eu le plus de succès à la télé, c'était les Perses d'Échille. Ça laisse rêveur, quand même. Et donc, Leroy Gourhan répond à cette question, écoutez, mais c'est bref à la fin de son livre, ça n'occupe que deux ou trois pages. Il dit, écoutez, jusque-là, jamais n'a existé dans l'histoire de l'humanité un moyen d'expression qui polarise à la fois les deux capacités d'expression du corps humain, c'est-à-dire l'oreille et la parole, enfin l'écoute, enfin le voir et l'écouter. Il dit, jusque-là, au fond, quand il y avait un réseau qui était censuré, on déviait sur l'autre. Et il se demande qu'est-ce que ça donne, en effet, que pour la première fois dans l'histoire, existe un moyen de capter les deux à la fois, c'est-à-dire le visuel et l'auditif. Moi, il se pose la question, c'est tout. Et c'est vrai que, si vous voulez, le sentiment qu'on a, c'est qu'au fond, quiconque tient les yeux de quelqu'un tient sa tête. Si vous avez les moyens d'occuper les yeux, vous occupez la totalité du lieu de la pensée. Alors, comment l'appeler ? Bon, moi, j'aime pas le mot esprit. Enfin, c'est quand même, disons que c'est le mot courant pour désigner cet espace-là en nous. Et cet espace-là, en effet, quand le flot visuel, je crois que c'est le flot visuel, une image fixe, ça n'a pas du tout le même effet. Mais que le flot audiovisuel qui coule dans les yeux occupe absolument tout l'espace qui est derrière les yeux. Moi, ça m'a posé un autre problème, c'est de me dire que, au fond, alors, ce qui est derrière les yeux, c'est ce qu'on appelle l'intériorité, d'une part, qu'on peut appeler l'âme, qu'on peut appeler l'esprit, enfin, etc. Et ce qui m'intrigue, si vous voulez, dans ce pouvoir d'occupation, c'est de me dire, mais pourquoi ? Pourquoi un tel pouvoir ? Pourquoi les yeux, au fond, ont-ils un tel pouvoir sur nous ? Et au fond, je me demande si vous voulez, à l'origine, il y a, bon, on ignore comment est né le langage, on ignore tout de nos origines, mais je me demande si, au fond, au départ, il y a un organe commun à tous et qui fonctionne, d'emblée, c'est le regard. Alors, est-ce que ce regard, pour moi, au fond, je me demande si ça n'est pas le regard qui a créé l'intériorité. L'accumulation, si vous voulez, des images visuelles ne s'est pas transformée peu à peu en image mentale, quelque chose comme ça. Ce qui pourrait expliquer l'importance du regard dans le, vis-à-vis du mental. Bon, et alors l'autre chose que je me dis, cherchant les points de résistance, c'est que, au fond, ce qui nous rend le plus fragile, humainement le plus fragile, c'est aussi ce qui fait notre qualité. Ce qui fait notre qualité, c'est évidemment notre capacité de réflexion, de pensée, etc. Mais c'est à travers cette capacité-là que l'ennemi nous occupe. Alors je me demande si le moyen de résister à ça n'est pas, comment dire, la conscience de la qualité physique, c'est-à-dire prendre conscience que ces capacités-là, qui ont toujours été détachées du corps, au fond, à travers les religions, entre autres, qui prétendre qu'on est visité d'en haut, etc., etc. Moi, je pense le contraire, qu'on est visité d'en bas, que l'esprit, ça monte, enfin, etc. Alors, je me demande si la prise de conscience de l'appartenance physique, enfin, de tout ce qui est qualifié de spirituel, n'est pas une façon de résister à cette occupation. Mm-hmm. C'est ce que je me demande.
Alors, d'une certaine manière, ça signifierait qu'il faut tourner, ou du moins, cette attention à tourner le regard vers ce qui nous traverse, vers...
De temps en temps, le retourner dans l'autre sens, pour voir d'où ça vient.
Justement, votre poésie parle et pense le corps. Vous êtes très attentif à ce qui traverse le corps. Et vous dites que ce point de résistance, là, c'est le corps, ce point de résistance à ces formes d'imaginaire qui nous viennent de l'extérieur et qui ont une emprise sur nous. C'est le corps qui est instinctif. La question, est-ce que le corps peut se donner comme une promesse de résistance, de révolte?
Ah, c'est bien ça. Non, je veux dire, je suis très séduit par ce que vous dites. Est-ce que le corps peut se vivre plutôt comme une promesse de résistance? Oui, je crois en effet. Enfin, que c'est une manière. Je pense que la prise de conscience du fait que, enfin, ce qu'on appelle l'esprit, par exemple, est en réalité une capacité physique. À partir du moment où on le ressent, où on le perçoit plutôt comme une capacité physique, sans doute que ça permet de résister à ce faux esprit que sont les médias, par exemple. Sans doute, oui. Mais est-ce que, si vous voulez, ma poésie, en effet, elle est née de cette espèce de, je ne sais pas comment l'appeler, de mythologie du corps, au fond d'une espèce de, oui, de champ mythologique, je ne sais pas comment appeler ça. Mais en même temps, si vous voulez, j'ai toujours eu une conscience, comment dire, du fait que, en fait, l'écriture, et peut-être la pensée, dématérialise ou décorporalise en réalité cette situation. Je veux dire que le corps est indispensable pour penser, pour chanter, si je puis dire, pour être au fond en contact avec la circulation de la perception du monde, mais qu'en même temps l'expression de cette circulation et de cette conscience dématérialise. Bizarrement, si vous voulez, je crois que le langage dématérialise et décorporalise, et qu'il faut sans cesse revenir sur ses pas pour reprendre corps, en quelque sorte.
Logosphère. Zone autonome de parole et de pensée libre. Sur les ondes d'univers. Alors, votre pensée est une pensée de l'autonomie, à un niveau justement corporel, physique, mais aussi politique, dans la mesure où vous vous êtes intéressé très profondément à l'histoire de la commune, et plus que cela, vous avez écrit un dictionnaire de la commune qui est une forme singulière et originale, dans la mesure où vous nous laissez les termes mêmes de la commune et la possibilité de parler, d'écrire, de penser dans ce langage qu'a formulé la commune. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment respire ensemble cette idée de l'autonomie du corps, cette idée de se donner ses propres référents, son propre langage par rapport au corps? Et cette pensée de la commune, qui est aussi un appel à l'autonomie.
Oui, je ne suis pas sûr qu'à l'époque où j'ai fait ce travail, j'avais cette conscience-là. Et tout à l'heure, j'étais frappé en venant ici. Un peu plus haut, il y a une rue dédiée à Louis Rossel, qui est quand même un des grands, un des grands martyrs de la commune. J'aime pas le mot martyr, mais enfin bon, il est un... Alors, comment ça fonctionne? C'est vrai, au fond, là, j'avais jamais pensé à ça, mais vous me donnez envie de penser que le dictionnaire est une espèce de corps qui permet d'inscrire à la fois le langage et l'histoire de la commune dans une forme qui reste ouverte. Ce qui me frappe, c'est que quand on écrit une histoire en continu, enfin comme on l'écrit d'habitude, il y a une masse de... on devient propriétaire finalement de l'histoire qu'on essaie de reconstituer parce que on l'articule... On essaie d'en articuler la totalité. Alors, il me semble que le dictionnaire est peut-être la seule manière, avec le temps même, je me demande si c'est pas la seule manière objective, relativement, d'écrire l'histoire, pour la raison que l'histoire, c'est toujours la pensée que le présent forme du passé. Et alors, évidemment, cette pensée se modifie à mesure que change le présent. Donc, c'est vrai, l'histoire, il y a des faits historiques indéniables, mais l'histoire, c'est la manière de les associer les uns par rapport aux autres. Et cette manière de les associer change à mesure que change le présent. Alors, il me semble que l'avantage du dictionnaire, c'est que, si vous voulez, il permet, dans un ordre arbitraire, mais qui s'autodénonce, l'ordre arbitraire étant tout simplement l'ordre alphabétique, de mettre en place les faits, les personnages, les événements, les institutions, etc., etc. Et en permettant au lecteur d'écrire lui-même l'histoire, puisqu'il dispose de tous les éléments, mais qui ne sont pas, organisés dans un ordre définitif, disons. Puisque toute histoire, enfin, met les choses dans un ordre provisoirement définitif, au moins le temps de la lecture de cette histoire. Cela dit, il y a des livres d'histoire comme Michelet qui ont une telle valeur d'expression. Enfin, je veux dire, la qualité du style de Michelet fait que je pourrais toujours lire avec plaisir Michelet, quitte à critiquer ses choix, ses positions, etc., etc. Mais au fond, mon ambition, c'était d'essayer de faire que le lecteur soit l'artisan de l'histoire, quoi.
En proposant ce langage de la commune, vous montrez aussi tout ce qui a été la commune et dans cette idée que la commune n'a été qu'une esquisse qui institue de nouveaux principes d'organisation collective, sociale et politique qui ne demandent justement qu'à être retrouvés, notamment dans notre époque.
Ça, certainement. En même temps, si vous voulez, je ne suis pas dupe. C'est vrai que la commune a l'avantage, enfin j'ai du mal à dire l'avantage d'avoir été si violemment réprimé que ça a immobilisé son mouvement. Alors si vous voulez, au fond, ce qui caractérise la commune, c'est sans doute, c'est le désir de trouver un système politique qui fasse en sorte que les représentants élus ne soient pas éloignés de leurs électeurs, enfin restent sous la surveillance de leurs électeurs, puisque le principe de notre démocratie, c'est d'élire des gens qui, pendant au moins 5 ans, échappent à tout contrôle. C'est à peu près ça, disons, grosso modo. Donc là, le principe de la commune, c'est de les garder sous surveillance et à proximité, et afin de pouvoir éventuellement les révoquer. Alors, si vous voulez, moi, depuis des années, je me demande comment faire. Bon, j'ai beau... dans Marx, par exemple, une chose m'a toujours... je pense que c'est un grand dommage pour l'histoire que Marx soit mort avant d'écrire la partie du Capital qui concernait l'État. Bon, j'espère que c'est un grand dommage. Enfin, irréparable. Mais je me dis que s'il avait écrit ça, peut-être que la trahison comment dire, des pays de l'Est, la trahison stalinienne n'aurait peut-être pas été possible. Enfin, elle aurait sûrement été possible par d'autres moyens. Enfin bon. Alors, si vous voulez, depuis des années, je me demande, au fond, le principe est simple, mais je ne trouve pas la réponse. Le principe, c'est de se dire, mais comment un contre-pouvoir peut-il prendre le pouvoir et rester un contre-pouvoir? C'est à peu près ça. Bon, j'ai beau lire Lénine, l'État et la Révolution, tout ce qui était inspiré de la Commune, si vous voulez, c'est assez étrange, parce que Marx a écrit un livre assez étonnant qui s'appelle « La guerre civile en France », qui est au fond une histoire de la Commune, qu'il a, enfin, dont il a lu le texte le 30 mai devant l'International à Londres, alors que la Commune s'est terminée le 28 mai. C'est quand même assez étonnant, si vous voulez, la perception qu'il a. Mais il y a surtout quelques lettres de Marx à... Je ne sais plus, de temps en temps, les noms propres m'échappent. Où il explique que les camarades parisiens, ils ont su casser l'État. Bon, on peut penser... Alors, Lénine va réfléchir, l'autre Engels... à une phrase comme ça définitive qui m'a toujours laissé perplexe en disant que Marx a révélé les idées inconscientes de la Commune. Ah bon, ça nous fait une belle jambe. Et donc Lénine a repris le travail avec l'État et la Révolution, mais où il explique bien que Marx dit qu'il faut briser l'État, mais enfin c'est jamais ce qui est arrivé. Briser l'État en attendant de pouvoir le remplacer. Bon. Donc je vous dis, le principe est... L'interrogation demeure, comment un contre-pouvoir peut-il prendre le pouvoir et demeurer un contre-pouvoir, puisque chaque révolution a été trahie par sa propre prise du pouvoir. Sauf peut-être la Commune, mais la Commune elle a été brève.
Alors, j'aimerais en venir... d'une certaine manière, à la situation de notre époque. Il y a peut-être une forme de lassitude devant cette réduction du sens, qu'il y a une forme d'indignation aussi, dont vous aviez dit d'ailleurs que c'est le fait de ne pas trouver encore ces mots. Est-ce que finalement, ces principes-là qui ont été esquissés ne pourraient pas être remis sur l'établi?
Non, mais certainement. Mais hélas, rien n'annonce un appétit de cette remise en jeu. Si vous voulez, j'espère qu'on changera de président, disons. Mais je ne suis pas sûr qu'on va gagner beaucoup au change. Je veux dire, parce que libéralisme pour libéralisme, on en est là. Bon, alors... Il y a un libéralisme antisocial, si je puis dire. Il y en a un qui est un peu plus social. Mais bon, la différence, je ne suis pas sûr que la différence soit si tranchée.
Mais lorsque l'on voit la manière dont ce système de signification qu'est l'économie s'impose à nous aujourd'hui et qu'il réduit justement tout à la marchandise... Finalement, n'y a-t-il pas cette part en nous qui demandons justement autre chose?
Non, mais j'espère bien que nous demandons autre chose. Mais est-ce que nous pouvons, disposons-nous des moyens d'exiger autre chose? Enfin, je l'espère, mais cette marchandisation générale à travers la consommation, puisqu'on a quand même donné aux gens le goût de consommer, pauvrement ou richement. Enfin, il est plus facile de consommer richement que pauvrement. Mais c'est beaucoup plus captateur de consommer pauvrement. Au fond, parce que ça engage toute l'activité de celui qui consomme. Au fond. Si vous voulez, ce qui me frappe, par exemple, je ne sais plus avec qui on parlait de ça ce matin, c'est que même dans l'édition, si vous voulez, autrefois, un éditeur rêvait d'avoir un fonds. Aujourd'hui, un fonds, ça vaut rien, parce qu'il s'agit de gagner de l'argent tout de suite. C'est simple. Donc la compétitivité est immédiate. Comme je trouve ahurissant que les gens ne se rendent pas compte qu'avec la perte des services publics, c'est la perte du service. Je veux dire qu'un service public, c'était fait d'abord pour rendre service, et non pas pour être rentable. La rentabilité, elle était dans le service rendu. Alors, est-ce que vraiment on entend plus ça ? Si vous voulez, c'est quand même quelque chose de purement humain, ça, d'entendre le service rendu.
À travers ces objets qui s'échangent aussi, c'est une forme marchandise qui s'impose et qui ne laisse rien d'autre exister
que la marchandise.
Que la marchandise. On a entendu dans les années 70-80 cette idée qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Mais finalement, est-ce que c'est supportable de vivre sans autre alternative ?
Je ne crois pas. Je me dis, moi je suis vieux, peut-être que je ne sais pas comment peuvent vivre les autres. C'est vrai, je me sens un peu dispensé de marchandises, parce que j'ai dépassé l'âge de la marchandise. Enfin, c'est une explication un peu courte, j'avoue. Alors, je ne me rends pas compte de la, comment dire, de l'occupation mentale que représente cette marchandise. Je pense quand même que le règne de l'image, puisque l'image a tendance à occuper entièrement le champ, non seulement le champ visuel, mais puisqu'en occupant le champ visuel, on occupe le champ mental. Moi, je ne crois pas, si vous voulez, à la... Je pense que l'image est, que l'image disperse l'attention, au fond, parce qu'elle glisse, alors que le mot appelle à la réflexion. Enfin, l'articulation même de la phrase appelle la conscience de cette articulation, quoi, pour la comprendre. Alors que le glissement des images, je pense, neutralise tout le champ mental, je crois. Alors évidemment, je ne sais pas, si vous voulez, c'est un peu comme ce que nous disions au début, on ne sait pas quelle est la perte du langage occasionnée, enfin, quelle est la proportion plutôt du langage perdu à travers les médias. On le constate, mais on ne mesure pas. Alors, ce glissement de l'image fait partie de cette perte, je pense, du langage, parce que je ne pense pas que l'image ménage l'arrêt réflexif, au fond. Moi, je vois ça un peu dans... Je vis dans un village. Je vois un peu l'effet... Enfin, où je fréquente peu de gens, et je vois l'effet de la télévision sur eux, ceux qui sont des gens plutôt gentils, généreux, etc., mais qui ne raisonnent qu'à travers TF1. Il n'y a rien à raisonner à travers TF1. Je veux dire, ce sont des victimes de la propagande, quoi. Alors, ce qui m'étonne, si vous voulez, moi j'ai essayé dans un roman qui a de réfléchir à ça, c'est que la grande différence, au fond, entre les années, l'avant-guerre, une avant-guerre qui se prolonge au moins, justement, jusqu'à ce que la télévision occupe tout le champ, ou soit le principal média dans le champ social, si vous voulez, on essayait de... ce qu'on disait, de bourrer la tête des gens avec de la propagande. Et maintenant, je crois qu'on a trouvé un meilleur système. Je me demande jusqu'où les dirigeants, ou le pouvoir, jusqu'où le pouvoir en est conscient, c'est qu'il vaut mieux vider la tête des gens qu'essayer de la remplir. Si vous voulez, parce que, au fond, je me dis... Je ne sais pas si je pense à la religion qui a été la nôtre, enfin principale pendant des siècles, c'est-à-dire la religion catholique. Cette religion, enfin, il en allait de même à peu près avec les concurrents protestants. Je veux dire qu'on donnait en partage, au fond, une pensée générale. Enfin, une pensée qui était à la fois sociale, mystique... Enfin, le corps mystique, ça existait. Il y avait une espèce de circulation générale de cette pensée-là. Mais en fond, on nourrissait ce corps social avec une pensée forte. Bon, qui était faite pour neutraliser toute autre pensée. Mais je veux dire qu'on donnait aux gens à penser. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est en ne leur donnant rien à penser qu'on les occupe. puisque cette société médiatique ne donne rien qu'une circulation d'images ou une consommation générale d'images qui se succèdent, s'annulent les unes les autres. C'est plutôt ça, tout s'annule au fond. Si vous voulez, il suffit d'écouter, les informations, mais même à la radio, où on va vous passer de, un massacre, je ne sais où, et puis tout à coup, les nouvelles du sport, et tout à coup, un naufrage, et n'importe quoi, quoi. On enchaîne n'importe quoi. Tout devient n'importe quoi, plutôt, par l'enchaînement.
Alors, ça va être ma dernière question. Vous avez écrit « L'enjeu n'est plus d'ordre ponctuel ni stratégique, c'est l'humanité tout entière qui doit changer en découvrant qu'elle est seule et seule responsable d'elle-même. Après la disparition, ou du moins l'effacement très large de la religion, est-ce que finalement nous ne sommes pas dans cette situation ?
C'est vrai au fond que l'humanité est seule au monde. Mais elle n'en a pas conscience, je pense.
Bernard Noël, merci.
Merci à vous.
Logosphère. Zone autonome de parole et de pensée libre. Sur les ondes d'univers.